Bonjour, bienvenue dans l'émission Histoire 2 sur FPP, Fréquence Paris Pluriel 106.3. Histoire 2 est une émission mensuelle consacrée à la lecture à voix haute. Chaque mois, je viendrai vous lire des textes, des extraits, des nouvelles. Vous êtes dans l'émission Histoire 2, c'est clair, je vais vous lire des histoires. Aujourd'hui, je vais vous lire deux textes, deux nouvelles de Marie Nimier. Marie Nimier est une auteure française qui a écrit de nombreux romans, des nouvelles, du théâtre, des albums jeunesse et aussi des textes de chansons. Aujourd'hui, deux nouvelles de son recueil intitulé « Vous dansez » qu'elle a écrit en 2006. Les patins. Comment s'appelait-il déjà? Je l'ai sur le bout de la langue. Un nom avec un tréma. Noël. Oui, Noël. Le fils de la caissière s'appelle Noël. C'est lui qui nous aide à lacer nos patins. Et il porte une bague en argent à l'index. Son pantalon de velours côtelé est usé au niveau des genoux. Il descend très bas sur les hanches. C'est bien le premier à les avoir comme ça, ses pantalons, un peu lâches et très bas. Ses gestes sont lents et précis. Ses lèvres se crispent lorsqu'il faut serrer. Quand la chaussure emboîte étroitement le pied, il tape deux petits coups sur la lame avec sa bague. C'est le signe du départ vers la glace, le signe de la perfection. Il sait tenir la cheville sans la comprimer, il sait dire sans parler et voir sans regarder. J'aime bien Noël. Ou plutôt, j'aimerais bien lui ressembler. Avoir une bague en argent à l'index, deux points sur mon prénom, des taches de rousseur et une mère qui travaille à la patinoire. Je trouve qu'il a de la chance d'être le fils de la caissière. De la chance de pouvoir entrer gratuitement, même pendant les heures de fermeture. C'est son asile, la patinoire, son domaine, sa forteresse. Je le revois accoudé à la balustrade. Il ne porte jamais ni bonnet ni écharpe. Jamais ne se plaint du froid. C'est pour lui que je patine, pour attirer son regard. L'élargir, l'épater, comme on dit d'un nez qu'il est épaté. Je veux rentrer dans son corps par ses yeux et l'occuper tout entier. Je veux l'envahir, je veux être lui, marcher comme lui, ne jamais avoir froid, comme lui et comme lui. Taper deux petits coups sur la lame quand la chaussure emboîte étroitement le pied. Ma mère aurait préféré que je fasse de la danse. Elle trouvait que j'avais des dispositions. C'est comme ça qu'elle dit, des dispositions. Le patin, elle trouve ça kitsch, un truc pour la télé. Mais enfin, après tout, mieux que de ne rien faire, elle a de l'ambition pour moi. Elle s'est acheté une doudoune réversible avec de la soie des deux côtés et du duvet à l'intérieur. Ça coûte une fortune au pressing. C'est important pour elle, les vêtements, l'allure, la propreté. J'ai une maman très belle et très compétente. Au début, elle vient aux leçons. Au début, on tourne en rond. Les genoux sont souples, sans exagération. L'allure change, le corps se libère de la pesanteur. Le corps s'allège et ma mère bâille. Ça ne m'est pas désagréable de la voir s'ennuyer un peu. Elle me fait penser à ces glaces à la vanille coincées entre deux gaufrettes. Noël avait des doigts très fins. Ses paupières tombaient sur ses yeux, comme ceux de cette actrice. Comment s'appelle-t-elle déjà? Mais si, tu ne connais qu'elle, cette actrice, avec les paupières qui tombent. Je n'ai pas la mémoire des noms, mais curieusement, j'ai toujours eu celle des figures. Pas des visages, non, des figures, la mémoire des enchaînements. Patiner, c'est travailler sa trace, disait notre professeur. Travailler sa trace comme on travaille une phrase avec ses pleins et ses déliés. On affûte les lames comme on taille un crayon. Tous les mercredis et tous les samedis, j'écrivais sur la glace d'interminables déclarations. Je gravais nos initiales suivies d'un cœur maladroit. C'était mon écorce à moi, ma feuille. L'écran sur lequel je projetais mes rêves. Je me faisais peur, je prenais des risques inouïs, je tombais, je me relevais. Les patins, disait ma grand-mère lorsque nous arrivions dans le couloir. Pas bonjour, pas bonsoir, non, les patins. Nous mettions nos petits pieds sur les langues de feutre. Et là, elle devenait tout sucre. Nous allions l'embrasser, j'aimais son odeur de poudre. Elle est morte un jeudi, nous avons fait le pont. Il y a des filles à la patinoire qui font le grand écart. Avec leurs jupettes, le grand écart, l'intérieur des cuisses bien à plat sur la glace. On dit que la meilleure glace se trouve sur les eaux stagnantes. Si elle se casse, il faut se mettre à plat ventre sur les bords du trou. Me voilà à plat ventre sur les bords du trou. Le fils de la caissière m'aide à sortir de la piste. J'ai mal à la cheville. Il m'entraîne à l'infirmerie. Une petite pièce au sous-sol où s'entassent les costumes des spectacles de fin d'année. Des ponchos, des sombreros, des robes de princesse. J'ai les lèvres sèches, la gorge sèche et les genoux mouillés. Il fait très sombre dans les couloirs. Mon regard se fixe sur le rectangle vert de la sortie de secours. Mes yeux s'habituent à l'obscurité et ma bouche à sa bouche. C'est la première fois que j'embrasse quelqu'un comme ça. Je n'ai jamais senti quelque chose d'aussi doux. Nous sommes sur le lit de camp de l'infirmerie et le monde bascule. Il rit. C'est le lit qui se referme sur nous. Il est heureux. Il me dit qu'il est heureux en passant sa main dans mes cheveux. Il me serre comme on serre une femme. Et puis soudain, il s'éloigne. Il faut y aller, me dit-il. Je dois y aller. C'est l'heure de ranger les patins. Je pense de les ranger, les patins. Pas de les rouler, et à mon tour, je me mets à rire. Nous remontons en nous tenant la main. Ma mère est là, en haut de l'escalier, et c'est comme si elle voyait le fils de la caissière pour la première fois. Elle regarde, un air faussement détaché, nos deux mains qui se tiennent. Elle se tait. Elle qui parle beaucoup d'ordinaire, elle qui commande tout et qui donne son avis sur tout. Le médecin est sûr de lui. Je dois arrêter toute activité sportive, au moins 4 semaines à cause de ma cheville. Nous partons en vacances à Trégastel. Ma grand-mère n'est plus là pour nous dire « les patins, les patins ». Et j'ai du mal à traverser le salon en sandales. Pourtant, c'est la nouvelle règle dans la famille. Le parquet a été vitrifié, il ne craint plus rien. Et moi, j'ai toujours peur que ma grand-mère en souffre, si elle nous voit, d'en haut. Mon père n'a pas ce genre de scrupules et foule allègrement le sol du salon avec ses chaussures de sport. On dirait qu'il se venge. Je passe de longues heures sur la plage. Marcher dans l'eau me fait du bien. À la rentrée suivante, ma mère me propose de m'inscrire au Conservatoire supérieur de danse. Elle s'attend à ce que je proteste, que j'insiste pour retourner à la patinoire. Elle a dû préparer tout un discours pour m'en dissuader. Mais non. J'accueille sa proposition avec soulagement. Elle me délivre d'un désir trop grand pour mon âge. Je ne veux plus voir le fils de la caissière, ne plus y penser, l'oublier. L'année du conservatoire, j'ai eu mon premier appareil dentaire. Comme si le fer des patins m'était remonté dans la bouche. Un petit grillage pour me protéger du monde des grands. Un petit barbelé dont il fallait tous les 3 mois resserrer les vis. Je n'avais rien jusque-là, ni lunettes, ni séances d'orthoptie ou d'orthophoniste. Alors l'appareil, je trouvais ça bien. Ça me faisait quelque chose de particulier. Au début, j'avais du mal avec le sol. J'avais l'impression qu'il était mort. L'impression d'avancer sur un élément défunt, du bois coupé, la peau tendue d'un animal. Et dessous, il y a la chair, comme dans les chaussons des petits rats de l'opéra. Si c'est vrai ce que l'on dit, qu'elles mettent des escalopes crues dans leurs pointes pour soulager leurs blessures, de la viande au bout des pieds, par-dessus la peau. C'est drôle, les petits rats. Pas vraiment gracieux comme nom. Vigueur carnassière, dents qui rayent le parquet. Parce qu'il en faut de l'ambition, beaucoup d'ambition pour endurer ce qu'on endure. Je comprends bien ce qu'ils veulent dire avec ça. Petit rat en tutu, le côté rongeur de l'histoire, avec ce sol qui vous tire par les pieds, ce sol qui vous ramène sans cesse à la réalité, Mais à force, j'ai pris l'habitude. J'ai grandi. J'ai apprécié la souplesse du sol, sa fidélité. De mon corps aussi, j'ai fait connaissance, comme si jusque-là, je n'avais fait que tourner autour de lui à toute vitesse, sans jamais m'y poser vraiment. J'ai 14 ans. Je découvre l'immobilité, le surplace, la verticalité. J'ai 15, 16, j'ai 17 ans. Je continue la danse avec obstination. J'ai 18 ans. Et je découvre encore de nouveaux muscles, de nouvelles façons d'articuler les gestes, et même de nouveaux gestes que je connaissais depuis toujours. Des gestes tout simples. Le geste, on verra bien, la paume vers le ciel. Le geste du silence, un doigt posé sur les lèvres. Le geste, à très bientôt. Le geste pour enlever les miettes autour du bol le matin avec le plat de la main. Le geste qui vous échappe. Le geste qui gesticule et celui qui s'ébauche quand on doute de soi. Tout ça, c'est aussi de la danse. Même l'immobilité, c'est de la danse. Même le baiser de Noël, c'était de la danse. J'aimerais que tout se remette à tourner, que ça ne s'arrête jamais. L'idéal, ce serait de patiner sur des fers à repasser. Pas de crissement, pas de questions, pas de racines, pas de crampons. Ça glisserait tout seul autour d'un axe invisible. Je retiendrai mon souffle. Et l'histoire s'effacerait comme les rayures, les plis, les rides, au passage de la réglette d'une ardoise magique.
Study, no boyfriend, I'm kinda bored.
C'était Private Lily du groupe Moriarty. Vous êtes sur Histoire 2, sur FPP 106.3, fréquence Paris Pluriel. Nous poursuivons notre chemin littéraire avec une seconde nouvelle de Marie Nimier, toujours du recueil Vous dansez, intitulée Le ficus. Nous habitions un appartement rempli de plantes vertes. Il portait des pantalons framboises écrasés et aussi il avait une collection impressionnante de chemises étriquées, des chemises qu'il boutonnait jusqu'en haut, même en été. Mais à la maison, il se promenait le plus souvent en peignoir. Un peignoir blanc immense, volé au Lutetia, ce qu'il était allé faire au Lutetia. C'était un garçon, comment dire, un garçon flottant. Et moi aussi, je flottais. Nous flottions, tous les deux, comme des nénuphars dans ce grand appartement qui donnait sur les toits. Nous faisions partie du paysage. Pendant des heures, il essuyait les feuilles des ficus. Avec cette même application, cette même douceur, cette même patience obstinée, il me caressait. Tout méritait la même attention. Les chevilles et les feuilles, les nervures et la bouche. Le mollet, le tronc, les lignes de la main. Chaque centimètre carré de mon corps, comme on effleure le dos des livres d'une bibliothèque qui vous impressionne. Des heures comme ça. Ficus poignet, ficus omoplate, ficus, 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 coude, clavicule, plante des pieds. Je devenais une branche sur le lit, un tronc prenant ses racines dans les plis du drap. Alors il lissait les draps, la paume bien à plat, en les regardant avec la même bienveillance. Tout pour lui était égal. Ça lui était égal, tu comprends ? Égal, indifférent. Et pourtant, il était attentif. Comment expliquer ? Un corps qui bouge, pleinement, absolument présent, mais présent à une autre réalité, comme un danseur qui danserait merveilleusement, mais pas pour toi. Comme ces filles que l'on voit parfois vers 5 heures du matin dans les boîtes de nuit, paupières baissées, au centre de la piste, très belles. Et puis soudain, elles ouvrent les yeux, se dirigent vers le vestiaire, sans un regard pour ceux qui restent. Elles repartent, seules, sans que personne n'ose les raccompagner. Non, personne n'insiste, personne n'ose insister, et leurs talons claquent dans les rues désertes. Lui, c'était un peu pareil. Il essuyait, et quand il n'y avait plus rien à essuyer, il brumisait. Puis, sans prévenir, son peignoir glissait de ses épaules et s'affaissait sur le plancher, formant une sculpture textile toujours très organique, une mue. Il s'habillait, passait de l'éponge à la soie, de la blancheur laiteuse aux framboises écrasées. Il devait sortir, je dois sortir, murmurait-il d'un air préoccupé. Il ne me proposait pas de venir, ne disait pas ce qu'il allait chercher, ce qu'il lui fallait soudain de façon urgente. Je le suivais sans lui demander son avis. Il ne me repoussait pas, ne m'attirait pas non plus. Nous marchions longtemps. Deux danseurs qui marchent, l'un derrière l'autre dans la rue. Même en ne faisant rien, cette façon d'attaquer le sol, de rebondir... Tout de suite, on savait que c'était avec ces mêmes corps que nous faisions l'amour, ces mêmes corps pliés, pendus, portés, étirés, que nous montions sur scène. Des fleurs. Il lui fallait des fleurs. Les acheter, les cueillir, les voler, les arracher. Il n'avait aucun scrupule. Dévaliser les plates-bandes municipales, les cours d'immeubles, jusque dans les cimetières, il allait satisfaire son besoin compulsif d'accumulation végétale. Nous rentrions chargés. Il répartissait son butin dans des vases que nous avions nombreux, posés comme des sentinelles en haut du placard. Quand il était heureux, son visage devenait plus large. Longtemps, j'ai gardé ces petits mots qu'il me laissait sur la table de la cuisine. Il écrivait en pattes de mouche. Sa voix était bouleversante, triste et profonde. Nous ne parlions jamais de ces petits mots. Ce qui était écrit appartenait à un autre monde. Il dansait dans une compagnie cosmopolite qu'il avait créée, une compagnie qui s'appelait « Die Blumen van het Kwaad », les fleurs du mal en flamand. les répétitions avaient lieu dans la pénombre, sous un hangar, près du fleuve. Il avait développé une théorie assez particulière sur la façon d'éclairer ses spectacles. Il prétendait que la lumière gommait l'histoire, que c'était du papier buvard, un masque lissant, une couche qui se déposait à la surface des corps qu'il fallait essuyer, de la même façon qu'il essuyait les feuilles des ficus pour les débarrasser de ce dépôt blanchâtre qui les empêchait de respirer. La lumière, la scène, l'illusion, créer l'illusion, mais l'illusion de quoi? Du réel? Quoi de plus réel que la peau? Et pourquoi gommer ces aspérités? Quand il parlait de la danse, il se mettait en colère. Ça le rendait nerveux, comme s'il était attaqué, comme s'il avait quelque chose de très important à défendre, quelque chose de précieux qu'il devait cacher dans un sac en papier pour ne pas être pris en faute. Un jour, il avait assisté dans le métro à une scène qui l'avait marqué. Une scène qui résumait tout ce qu'il mettait dans ce mot-là, danser. La rame était bondée. Un père et sa petite fille étaient debout près de lui. Le père avait demandé entre deux stations : qu'est-ce que tu désires le plus au monde ? La petite fille s'était blottie contre lui. Puis elle avait répondu : ce serait bien si on était moins serré. Il aurait aimé créer une danse autour de cette phrase, de cette situation, se blottir contre son père pour être moins serré. Ça lui parlait, ce genre de choses. Ça lui donnait la chair de poule. Et moi, qu'est-ce que je désirais le plus au monde? Il m'avait posé la question et je n'avais pas su quoi répondre. Il avait haussé les épaules comme si ça ne l'étonnait pas au fond que je ne désire rien en particulier. Pour lui, j'étais une plante singulière, mais une plante tout de même. Je ne devais pas le prendre mal. Dans sa bouche, c'était un compliment. Je me souviens que pour la fête des mères, il portait un œillet rouge au revers de sa veste kaki. Il s'était étonné que je ne connaisse pas la tradition, porter un œillet rouge à la boutonnière le jour de la fête des mères. Encore fallait-il avoir une boutonnière. Et une mère. Il avait grandi dans des familles d'accueil à la campagne. C'est peut-être ça qui m'intriguait le plus au début. Par quel chemin, quel détour, il avait rencontré la danse? Il m'avait raconté ce feuilleton qu'il avait vu à la télé. L'histoire se déroulait à l'Opéra de Paris. Ça s'appelait « Les temps heureux » ou je ne sais plus. Enfin, quelque chose avec l'idée du bonheur. On voyait des extraits de spectacles, on suivait les danseurs dans les coulisses. Une porte était entr'ouverte, on découvrait l'atelier des costumes, plus loin les loges, les grands miroirs, les tables de maquillage. Il avait déclaré à sa prof de français au collège qu'il voulait travailler là, dans cet endroit-là, qui portait ce nom étrange de Palais Garnier. Elle lui avait présenté une amie professeure au conservatoire, il avait suivi des cours de classique, il était doué. Mon histoire à moi me semblait nettement moins poétique. L'année de mes 8 ans, le médecin de famille avait conseillé à mes parents de m'inscrire à un cours de danse. J'étais trop maigre, il fallait absolument, disait-il, que je prenne corps. Je le revois soulever mon poignet qu'il tenait entre deux doigts comme on lèverait le couvercle d'un plat longuement cuisiné. J'entends encore sa voix. Mais c'est qu'il y a de la grâce là-dedans. Il avait souri en montrant ses gencives. Alors le feuilleton à la télé, rétrospectivement, ça me faisait rêver. Quelques années plus tard, une danseuse étoile avait raconté exactement la même anecdote dans un journal. Les coulisses de l'opéra, le palais des mille et une nuits, le son du piano, s'échappant des studios... S'était-il approprié son histoire? D'où venait-il exactement? Et que contenaient ces enveloppes doublées qu'il recevait de Suisse chaque mois? J'attendais tout de lui. Il m'en a donné trop. Trop, mais à côté. Comme on arrose une plante à côté de son pot. Je ne pouvais pas lire, jaunir, perdre mes feuilles. Il n'y voyait que le signe d'un changement de saison. Un soir, je l'ai quitté. Je l'ai planté, là, avec sa chiffonnette et son brumisateur. J'avais décidé de préparer le concours de bagnolet. Je devais faire un choix, ou plutôt j'avais l'impression que je devais choisir. C'était lui ou la danse. J'ai réussi le concours de bagnolet. J'ai travaillé. J'ai rencontré d'autres garçons qui ne savaient rien de cette plante originaire des Indes et que l'on nomme ficus ou figuier pleureur. Rien de ces chenilles minuscules qui prennent possession des feuilles et qu'il faut une à une écraser entre les doigts. Rien des horaires d'ouverture et de fermeture des cimetières, ni de ces papiers chinois qui, mieux que les gélatines, diffusent la lumière sans brûler le grain de la peau. 2 ans après notre séparation, j'ai eu de ses nouvelles par un ami commun. À mon départ, il avait quitté l'appartement et abandonné la danse. Et puis plus rien. Il avait disparu. Je pense souvent à lui. Je me cogne à son absence, à son renoncement. Je me demande ce qu'il est devenu. J'ai essayé de le retrouver. J'ai poussé les recherches jusqu'au Lutetia, à Paris. Je leur ai demandé s'il connaissait un client répondant à son nom. Son nom ? Tu veux savoir son nom ? C'est drôle. Je n'ai pas envie de te le dire. Comme si c'était la seule chose qui m'appartenait vraiment. La seule chose qui me prouvait son existence. Cette façon de mettre ses bras en collier autour de mon cou. Cette façon si lente, exaspérante de me mener au plaisir. Je garde ça aussi, le souvenir de ça. Et j'y pense chaque fois que je danse. Et je me dis qu'un jour il sera là, parmi les spectateurs. J'aimerais enfouir mon visage dans le creux laissé par sa tête sur l'oreiller. La troupe s'est disloquée peu de temps après son départ. Personne ne s'en souvient aujourd'hui et il ne reste rien de leur spectacle dans la pénombre. Voilà. Ainsi s'achève la lecture de ces 2 nouvelles de Marie Nimier, issues du recueil « Vous dansez ». Nous sommes sur fréquence Paris Pluriel 106.3. Je remercie chaleureusement à la technique Claude, Damien et Mireille. Je remercie Corcine pour la composition du générique. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve dans un mois et on se quitte sur une autre chanson, She Belongs to Me de Bob Dylan. Bye bye. She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start out standing, proud to steal her anything she sees. You will start out standing, proud to steal her anything she sees. But you will wind up peeking through her keyhole down upon your knees. She never stumbles, she's got no place to fall. She never stumbles, she got no place to fall. She's nobody's child, the law can't touch her at all. Egyptian ring sparkles before she speaks. She wears an Egyptian ring, it sparkles before she speaks. She's a hypnotist collector, you are a walking antique. Bow down to her on Sunday, salute her when her birthday comes. Bow down to her on Sunday, salute her when her birthday comes.
buy her a trumpet, and for Christmas, get her a drum.